La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alors, peu d'auditeurs connaissent le Solenostemon Scutella roides. Je ne vous remercie pas pour le lancement.
Vous l'avez parfaitement bien prononcé, je n'aurai pas l'outrage de vous demander de reprononcer le nom.
Non, on va éviter ça.
Mais les auditeurs férus de jardinage, et ils sont nombreux, ont certainement reconnu cette plante également appelée Coléus.
Le
Coléus.
C'est vrai que c'est plus facile pour vous.
Oui, très nettement. Mais il est vrai que je suis assez admiratif parce que c'était un petit piège.
Un petit jeu.
Une petite taquinerie pour Eric et il l'a prononcé avec beaucoup de talent. Alors, le Coléus, disais-je, est connu pour ses feuilles semblables à celles de l'ortie, mais avec un avantage et pas des moindres, elle ne pique pas. La plante est aussi et surtout appréciée pour la diversité de ses coloris et ses feuilles sont rouges, oranges, jaunes, vertes, bleues, rouges, tachetées, banachées ou encore comme décolorées. Le choix est vaste. Il en existe près de 1500 hybrides et cultivars. La plante n'est pas très grande, 30 à 40 cm, vivace, et même s'il est possible de l'installer en été dans le jardin, ce fut même d'ailleurs une mode il y a une quarantaine d'années, elle est surtout considérée, et à juste titre, comme une plante d'intérieur.
Alors de quelle région du monde est originaire ce Solenostemon Scutella roides?
Là vous êtes très fort parce que c'était pas marqué une seconde fois, et là vous prenez des risques Eric, bravo. Des forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique, vous me bluffez même, et d'Asie, ce qui explique pourquoi elle déteste la sécheresse, le soleil direct et le froid. En dessous de 4 degrés, j'ai pas dit de moins 4, en dessous de 4 degrés, la plante est en souffrance, voire même en grande souffrance.
Et puis vous nous rappelez que le Coléus est cultivé en Amérique centrale pour ses curieuses propriétés.
Et oui, et ce depuis la nuit des temps par les Mazatecs au Mexique. Les Mazatecs, donc, c'est la population, un peuple indigène, qui vivent dans une région non loin de Mexico. Alors eux aussi apprécient les feuilles, mais pas seulement pour leur beauté. Ils les fument après les avoir fait sécher ou les mâchent quand elles sont fraîches. Le résultat est immédiat. Ceux qui en se consomment sont pris d'hallucinations et leurs propos deviennent incompréhensibles, sauf pour les chamans supposés les comprendre et les interpréter. Ces derniers pouvaient, paraît-il, les guérir des maux de dents, des problèmes respiratoires et de la fièvre.
Alors, vous nous parlez d'Amérique centrale, mais il est aussi possible de trouver ces Coléus dans l'océan Pacifique, en Polynésie.
Eh oui, il y est introduit, je parle de la plante, et il s'y plaît tant qu'il s'y est naturalisé depuis partout, ou presque, et principalement aux îles Marquises et aux îles de la Société. À Tahiti, le Coléus est employé en cataplasme sur les entorses et il est surnommé, allez savoir pourquoi, vieux garçon. Alors, je vous en ai pas offert ce matin, Patricia Martin, parce qu'il ne faut pas, dans cette région du monde, en offrir. Il porterait malheur au couple, mais rassurez-vous, uniquement quand on est en couple.
Bien. Question des auditeurs. Alain Baraton, vous êtes un mufle. Maude.
C'est de la taquinerie.
C'est de la taquinerie.
Mais
évidemment.
Vous savez, j'en profite pour rappeler que le jardin, parce qu'on parlera dans les semaines à venir de l'importance des jardins en milieu hospitalier. Le jardin, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu où l'on peut se retrouver, mais c'est également un lieu de dialogue, d'humour, bien entendu.
Et ils comprennent, les auditeurs, que c'est de l'humour.
Ben
on
oui.
va le rappeler. Maude vous demande, Alain, Maude a très envie d'avoir des poules et de les laisser vivre en liberté dans le potager, mais est-ce une bonne idée?
Il y a une raison qui fait que la poule est la bienvenue. Elle boulotte tous les insectes et en particulier dévore une quantité de limaces et de chenilles véritablement impressionnante. Inconvénient, elle gratte et elle gratte beaucoup. Alors quand vous avez fait des semis, eh bien de mâches par exemple, eh bien vous ne les retrouvez pas. Donc oui, c'est une bonne idée, mais on ne mettra pas la poule tout au long de l'année. Quand il y a du semis, eh bien elle reste dans son poulailler que l'on va créer de manière vaste, importante pour ne pas que la petite bestiole soit cloisonnée à quelques mètres carrés seulement.
À propos des orchidées à présent, Fanny vous demande, est-il bon de tailler une orchidée pour qu'elle refleurisse?
Oui, alors l'idéal, il faut le faire, bien entendu. Alors vous faites très simple, une fois qu'elle a fleuri, et quelques semaines après la floraison, on ne coupe pas tout de suite, vous prenez tout simplement les tiges qui ont coupé des fleurs, vous coupez trois yeux, les yeux étant les bourgeons, et au troisième œil, à 1 cm au-dessus, vous coupez d'une manière claire, très nette, et logiquement, si la plante est conservée dans de bonnes conditions, à savoir une bonne humidité, bonne hygrométrie, et bonne luminosité, l'année suivante, vous aurez à nouveau un joli pied d'orchidée.
À propos du compost très en vogue, Juliette vous demande si on peut mettre des feuilles de marronnier malade dans un compost.
Eh oui, le Gagnardia aesculis, c'est le nom de la maladie qu'on appelle également la maladie des taches rouges aux foliaires. Mais oui, le marronnier, on pourra mettre en quantité raisonnable, bien
même
sûr.
Même malade,
à condition bien sûr que le tas soit retourné régulièrement et puis d'éviter d'utiliser le compost à proximité immédiate d'un marronnier. Mais ailleurs, il n'y a aucun problème.
Françoise vous demande si arroser des arbres en ce moment a encore du sens.
Je me pose moi aussi la question, voyez-vous. Oui, parce que j'ai la chance d'être dans un jardin où l'on continue d'arroser les arbres. Eh bien, mes collaborateurs, qui sont souvent de jeunes gens dynamiques et instruits, me disent que oui, parce que la plante a tellement souffert cet été que ce n'est peut-être pas du luxe de continuer à lui donner de l'eau jusqu'au dernier moment. Donc oui, mais je n'ai jamais constaté en 40 ans de métier une telle sécheresse en automne. Ça devient véritablement très difficile.
Alors Simone, maintenant, elle aimerait planter des bégonias à massif et elle vous demande pourquoi est-ce si difficile de produire ces massifs.
Très 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 compliqué. Le bégonia semper florens produit des graines déjà extrêmement petites qui s'envolent au premier éternuement. Deuxièmement, il faut les semer dans une terre, un mélange de tourbe et de terre de bruyère. Il faut ensuite les repiquer quand elles ont fait deux feuilles dans des terrines. Il faut ensuite les repiquer en godet pour ensuite les installer dans le jardin. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bégonias à une époque dans les parcs et jardins de ville, parce que c'était les professionnels qui aimaient montrer leur supériorité aux amateurs. Mais le bégonia est l'une des plantes les plus difficiles à produire. Je parle bien entendu du bégonia semper florens. Pour la petite anecdote, le prix des graines correspond aujourd'hui à peu près à 40 fois le prix de l'or. Logique, il y a 300 000 graines au gramme. Donc forcément, avant, ça coûte cher. Quand vous en achetez un kilo, vous avez de quoi fleurir la France entière.
On va finir avec un conseil lecture, une revue, je crois.
J'en parle à chaque fois qu'elle sort. La Garance Voyageuse, c'est la revue du monde végétal, avec toujours des sujets extrêmement bien ficelés, des textes toujours admirablement écrits, de belles explications. Et puis cette année, un petit rappel de la guerre de 1918 et de ce qu'il y a eu au niveau des végétaux, parce que la guerre a influencé la flore française. Donc c'est la Garance Voyageuse, la revue du monde végétal, et c'est le numéro 123.
Merci de ce conseil et de tous vos conseils en général, Alain, et au week-end prochain.
À samedi.